France Musique.
Merci à vous Christophe Bourseiller, nous vous retrouvons dimanche prochain à 17h pour un nouvel épisode de Musicus Politicus.
Les menus plaisirs de Bruno Mantovani.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes menus plaisirs. Un compositeur argentin me racontait il y a quelques années que dans son pays, les soirées télévisées consacrées à l'opéra étaient présentées par un célèbre commentateur de matchs de football. L'homme faisait apparemment preuve d'un égal enthousiasme en présentant l'argument de Traviata et en décrivant la qualité d'un retourné acrobatique. Avouons que nous avons du mal à imaginer en France qu'un même chroniqueur s'extasie devant les prouesses d'un joueur de ballon subventionné par le pétrole moyen-oriental et devant le gosier généreux d'une célèbre soprano wagnérienne. Pourtant, à bien y réfléchir, il y a des points communs évidents entre l'univers de l'opéra et celui du football. Le spectacle repose sur un travail d'équipe. Les fans des deux disciplines ont souvent des avis tranchés et définitifs sur ce qui a été fait et surtout sur ce qui aurait dû être fait. Et quoi qu'il se passe, il y a toujours un coupable, l'entraîneur pour le football et le directeur pour l'opéra. Je n'ai pas une grande passion pour les barbarismes, mais je vais en utiliser un. Être directeur d'une maison d'opéra est un métier d'une grande pénibilité. Vous programmez, vous gérez, vous inventez, vous combinez, vous faites preuve d'autorité, vous vous battez avec les égos des uns et des autres, vous pilotez des corps de métiers multiples, tout cela pour vivre la plus grande des injustices. Si le spectacle est de qualité, c'est grâce aux artistes. S'il est plus contestable, eh bien c'est la faute du directeur. Eh bien aujourd'hui, c'est un ancien directeur de l'Opéra de Paris qui est avec moi dans mon studio de Radio France, un directeur qui a marqué de façon incontestable l'histoire de Garnier et de Bastille, un directeur qui déteste le consensus mou, mais qui par sa détermination et par son goût est arrivé à fédérer autour de lui les personnels de la maison qu'il a dirigée et le public. C'est un peu l'Aimé Jacquet de l'Opéra de Paris qui est face à moi, un manager hors pair et avant tout un homme de plaisir, un gourmet de la voix. Je suis très heureux de partager cette heure en compagnie de mon ami Hugues Gall. Bonjour Hugues.
Bonjour Bruno.
Alors nous allons évidemment écouter beaucoup d'opéra aujourd'hui, mais j'avais une petite question puisque vous êtes un transmetteur de plaisir. Qu'est-ce qu'une production réussie pour vous ?
Une production réussie, voilà une bonne question. Non, c'est un spectacle qui correspond au plus près du rêve que nous avons nourri dans notre cœur et dans notre esprit. Vous savez qu'on programme 3, 4, voire 5 ans d'avance, on choisit le titre, on choisit l'équipe, le chef d'orchestre, et puis on se fait une idée, on a sa propre dramaturgie lorsqu'on choisit un opéra, et puis peu à peu, ces pièces du puzzle, on les assemble, elles sont à vous, et petit à petit, on fait progresser cet enfant qui naît en 2-3 ans, et puis dans les dernières semaines, évidemment, la mayonnaise prend ou ne prend pas. Le plus souvent, Dieu soit loué, elle prend. Mais elle prend parfois un tour très différent de celui auquel on a songé. Parfois en mieux, parfois des spectacles dont on pense qu'ils sont mal orientés débouchent sur un spectacle merveilleux. Donc voilà, un spectacle réussi, c'est quelque chose qui correspond quand même le plus près possible au rêve qu'on a nourri. Et puis un spectacle réussi, qu'on le veuille ou non, c'est un spectacle qui touche le public et qui trouve son public et qui donne du bonheur ou à réfléchir au public pour lequel finalement on le réalise. 2700 personnes à la Bastille, 2000 ou 1997, faut pas garder si ces choses n'ont pas changé. Voilà, c'est pour cela que l'on travaille et aussi un peu pour marquer un chaînon dans la mémoire de l'opéra, de la mémoire de ceux de nos contemporains qui n'ont pas entendu cette œuvre, qui la découvrent ou qui la redécouvrent.
Justement, à propos de découverte, vous avez, lorsque vous étiez directeur d'Opéra de Paris, mais aussi dans vos fonctions à Genève, laissé une vraie part à la création et aussi à des œuvres un petit peu moins connues que les grands succès de l'opéra, on va dire, du grand répertoire. On va d'ailleurs commencer par l'écoute d'Oberon de Weber, par l'extrait de cet opéra, l'air de Résia, par Birgit Nilsson, parce que c'est à la fois un opéra qui a un charme absolument extraordinaire et qui n'est peut-être pas aussi ce qu'on attend tous, c'est-à-dire le Freischütz.
Écoutez, j'ai une passion pour Weber. J'aurais dû honorer cette passion bien davantage dans les théâtres que j'ai eu le plaisir de diriger, notamment à l'Opéra de Paris. Je n'ai monté ni le Freischütz, ni Oberon, ni Oriente, ni tout cela. Et je le regrette, ce sont des œuvres très difficiles, et très difficiles non pas seulement parce qu'elles sont compliquées à interpréter, toutes les œuvres le sont plus ou moins, mais enfin ce sont des œuvres, et surtout Oberon, dont, pour laquelle il faut une fantaisie, quelque chose qui rapproche le public de cette grande fable, de ce grand mythe, et j'en ai vu une représentation absolument extraordinaire il y a une vingtaine d'années à la Scala, et vous savez voir quelque chose qui est particulièrement réussi, j'allais dire chez les autres, dans un grand théâtre, que ce soit à la Scala ou ailleurs, ça vous inhibe. C'était une mise en scène de Ronconi, c'était dirigé génialement par Ozawa, c'était une distribution absolument fabuleuse, j'étais absolument ravi de cette soirée, et je me dis, mais jamais j'y arriverai. Alors, c'est peut-être pas la seule raison pour laquelle je n'ai pas monté Oberon, car quand je suis arrivé à l'Opéra en 95, à Paris, 100 ans, c'était pas l'urgence. Mais je regrette toute ma vie de ne pas avoir été, comme ma passion m'y portait ou m'y porte encore, le producteur de grandes représentations d'Oberon ou d'Oriente. En revanche, j'ai donné le Freischütz dans une version exceptionnelle qui avait été marquée du sceau du génie d'un grand peintre et décorateur allemand, et je l'ai apporté à Genève de Stuttgart où elle a été créée, cette production. Et ensuite, je crois qu'elle a été donnée ici au Châtelet, car Stéphane Lissner, qui était à l'époque directeur du Châtelet, avait décidé de la présenter. Cette production n'a pas été comprise du public parisien. Il faut dire que le Freischütz, l'âme allemande, le romantisme, le chasseur, tout ça est très très éloigné du parisianisme.
Alors l'âme allemande, on va la retrouver aussi dans cet extrait d'Oberon. Ça sera le chœur et l'orchestre de la Radio de Bavière, dirigé par Raphaël Kubelik. Alors que notre chanteuse aurait campé une Rezia, qui est donc la fille du calife de Bagdad, avec un ton larmoyant dans cette cavatine si triste, Birgit Nilsson, elle choisit de le faire de la façon la plus, je dirais, la plus droite possible, avec une voix extrêmement homogène, quelque chose de finalement d'assez distancié, de très très noble. C'est pour la voix de Birgit Nilsson ou c'est pour Weber que vous avez choisi cet air de Rezia ?
Oh, pour les deux, d'abord, c'est un air qu'on entend beaucoup moins souvent que la célèbre cavatine Ozean de Ungaroya. Et j'adore cette musique, c'est pour Birgit Nilsson, à laquelle je dois des souvenirs extraordinaires, pas seulement des souvenirs du disque, mais mon âge me permet de l'avoir entendue souvent, soit à l'Opéra de Paris où elle entend incarner Turandot il y a bien longtemps, et puis ensuite du temps où j'étais l'adjoint de Lieberman, elle est venue pour de mémorables représentations d'Electra, femme extraordinaire, extraordinaire, une chanteuse, bon, je me souviens de ce timbre unique et de cette rectitude dans la voix, pourtant si émouvante. Et ça me rappelle un souvenir que je veux évoquer. Au moment où le président Giscard d'Estaing recevait un gala d'État, son homologue, le président Waldachel, qui était le président de l'Allemagne, on a donné Electra. Et ce spectacle était un spectacle tout à fait extraordinaire, avec Birgit Nilsson et toute une distribution dirigée par Karl Böhm. Et au milieu de l'ouvrage, qui, comme chacun sait, ne souffre pas d'entracte, d'un seul coup, la lumière s'est éteinte. Ou plus exactement, il y a eu une panne de courant qui a fait que la fosse d'orchestre s'est éteinte, que la lumière sur le plateau, évidemment, s'est éteinte, mais le spectacle étant plutôt sombre, on s'en est pas rendu compte tout de suite. Et pour des raisons de secours, c'est dans le culot du grand lustre de la salle Garnier que s'est allumée une lumière de secours. On s'est aperçu là que le gouvernement au grand complet dormait, que le président Giscard d'Estaing était très attentif, mais qu'on ne savait pas comment continuer. À un moment donné, l'orchestre s'est arrêté parce qu'il ne pouvait plus lire les partitions. Et Böhm était là à son pupitre. Et puis, j'étais complètement interloqué par un incident qui était gravissime. Vous aviez tout le gouvernement allemand, le gouvernement français, etc., les présidents de la République, bref. Alors, je vais au pupitre de scène, on me dit, mais on ne sait pas ce que c'est. Je monte naturellement la loge présidentielle. Le président Giscard d'Estaing qui a oublié d'être sot, c'est le moins qu'on puisse dire, me dit, écoutez, y a-t-il de la lumière dans le grand escalier? C'était une question pertinente, il fallait savoir comment sortir de ce guépier. On est resté comme ça pendant une quinzaine de minutes, 20 minutes, et on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on pouvait croire, il ne s'agissait pas d'un sabotage de quelques syndicalistes égarés, mais d'une panne qui couvrait tout le nord de Paris. Bref, et pendant ce temps-là, j'étais au pupitre sur la scène, et j'entends une petite voix. C'était celle de Birgit Nilsson qui me dit « Et moi, what do I have to do ?» Elle était restée plantée là, dans l'affolement général. Böhm était à son pupitre, les musiciens étaient tétanisés. Et Birgit me dit « Alors, qu'est-ce que je fais ?» Alors, je suis allé la chercher, la sortir de cette scène. Et 20 minutes plus tard, on a recommencé le spectacle qui s'est achevé, évidemment, dans un climat un peu différent de celui qui aurait dû être le sien. Curieusement, curieuse coïncidence, on n'a jamais su, au moment où le spectacle reprenait, qui était diffusé en direct sur vos antennes peut-être, en tout cas sur les antennes nationales, une panne de l'émetteur de la Tour Eiffel a pris le relais. Autrement dit, Electra, ce soir-là, n'a pas été l'ouvrage électrique.
Alors je ne sais pas si Electra fut électrique, mais dans l'extrait suivant que vous avez choisi, je ne sais pas non plus si le nocturne va nous pousser à imaginer que nous sommes non pas à 18h et les poussières sur France Musique, mais à 23h, d'autant qu'il s'agit de votre pianiste favori, je le sais, parce qu'on en a déjà parlé dans nos échanges réguliers, et qui n'est pas le pianiste le plus vocal qui soit d'ailleurs, qui est Claudio Arrau. Quand on pense à la vocalité pianistique, on pense à des Radouloupou, à des gens comme ça. Et vous avez une passion très particulière pour ce musicien qui a aussi une forme de distance par rapport au discours musical.
Oh, ça tient à la rencontre entre les enregistrements d'abord et puis des concerts auxquels j'ai assisté de Claudio Arrau dans les années 60 et puis le plaisir que j'ai eu à faire sa connaissance. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est plus profond que beaucoup de ses collègues de l'époque, qui incarne pour moi une tradition qui est celle du piano romantique à son mieux. Et il se trouve que vous parliez de sa vocalité. Oui, Claudio était un homme d'une culture immense, qui adorait l'opéra et auquel j'ai pu faire le plaisir de le présenter un soir d'entracte dans un spectacle de boulevard ici à Paris, à Maria Callas, qui avait pour lui la plus grande admiration. Enfin bref, ils sont découverts. Et j'ai entendu Claudio dire à Callas, écoutez, je suis très très ému de vous voir, puisque je vous applaudis souvent, et je ne joue plus Chopin après vous avoir entendu, comme je l'entendais auparavant, après Bellini et Donizetti par vous, Chopin, chez moi, est différent. Voilà.
Eh bien, on l'écoute dans un nocturne posthume.
Thank you.
C'était donc le 20e nocturne de Chopin, l'opus posthume, ici par Claudio Arrau, choisi par mon ami Hugues Gall et mon invité du jour. Évidemment qu'on on ne peut pas être autre chose que bouleversé par les modulations, notamment qui est à la fin de ce nocturne. Et il y a une chose que je trouve absolument remarquable dans cette version, c'est qu'en fait, la partie supérieure ne chante pas plus ou pas moins que les parties intérieures. Finalement, il y a une espèce d'absence de hiérarchie entre les notes. Il faut que tout ait leur importance. Et je trouve que Arrau remplace le pathos par l'articulation, quelque part. Il y a une articulation, une clarté, alors que certains pianistes mettent une pédale pas possible et essaient de créer une espèce de chose totalement brouillée, de grand brouillard comme ça. Là, au contraire, on est dans la clarté. C'est peut-être aussi ce qui renforce l'émotion de cette interprétation.
Pour moi, c'est la... Je ne vais pas dire des grands mots, mais enfin, c'est une vérité de Chopin qui me convient. Oui. Voilà, c'est comme ça que j'aime Chopin totalement, qui ne peut pas ne pas l'aimer. Mais enfin, à l'époque où Arrau le jouait, cette approche était tout de même très nouvelle, et beaucoup d'interprètes de Chopin, et non des moindres, en faisaient effectivement un romantique échevelé pour jeune fille bien élevée. C'est pas du tout ça. Et donc, j'ai trouvé chez lui, comme chez beaucoup d'autres interprètes, j'aime beaucoup Martha Argerich, par exemple, je ne suis pas l'homme d'un seul pianiste, Dieu soit loué, et je découvre toujours avec beaucoup de bonheur tout ce répertoire renouvelé, revisité, comme on dit aujourd'hui, par des talents qui se situent parfois dans des lignées totalement différentes de celles que j'admire chez Claudio Arrau. Non, Chopin comme ça me va, mais ça me va aussi autrement.
Alors peut-être maintenant on va retourner à l'opéra, pour, j'allais dire, un des morceaux les plus énigmatiques de l'histoire de l'opéra, puisqu'il s'agit du Quatuor de Fidelio, qui se situe à un moment de l'action, plutôt vers le début, où finalement on ne sait toujours pas si on est dans un drame bourgeois, j'allais dire, les historiettes amoureuses, les quêtes de pouvoir bourgeoises, ou si on est dans un drame idéologique, qui devient évidemment cet opéra, et où on est à la fois touché par la grâce et encore dans l'incertitude de savoir finalement quel ouvrage on écoute. Fidelio, c'est un opéra qui est assez finalement difficile à programmer, non ?
Très difficile, très difficile. Tous les opéras sont difficiles. Celui-ci l'est particulièrement, d'abord parce qu'il faut trouver des interprètes. Vous savez que le rôle de Florestan est un rôle difficile, mais celui de Fidelio encore plus. J'ai eu la chance d'entendre beaucoup d'interprètes... grand niveau, et puis il faut mettre en scène tout cela dans une vérité humaine profonde, sans anecdote, et en même temps, ça débouche sur une grande fable. Tout ça est très ramassé. Premier acte, on est dans cette scène un peu bourgeoise que vous dites, et puis le drame se noue, on comprend que Fidelio est un travesti, qu'elle est venue chercher son mari, on arrive dans le cachot, il est l'heure de l'assassinat de ce prisonnier énigmatique sur ordre du gouverneur, et puis d'un seul coup, le trompette arrive et c'est là. Et tout ça bascule à une vitesse incroyable et c'est très difficile à mettre en scène. J'ai eu la chance pour ma part d'en donner une traduction scénique tout à fait extraordinaire. Je crois que tous ceux qui l'ont vu ici et ailleurs, parce que c'est une production que j'avais montée à Genève sous la direction de Johannes Schaff, un grand metteur en scène de théâtre, qui avait résolu le problème de Fidelio, notamment le passage du deuxième au troisième acte, où d'habitude, pour faciliter le changement de décor, Fort Wengler avait d'ailleurs inauguré ou peut-être était-ce Mahler d'ailleurs, d'installer là, entre le deuxième et le troisième acte, la grande Léonore III, qui donnait du temps à tout le monde, mais enfin qui rompait l'action, puis qui racontait deuxième fois l'histoire, bref. Et dans cette version mise en scène par Schaff, et très, très bien chantée, notamment par Thomas Moser, qui était un grand chanteur d'origine américaine, mais qui était dans la troupe de Vienne, j'avais trouvé une formule qui a été admirable. Toute l'émotion, et puis tout le message universel de liberté, d'amour, enfin. Et dans ce quatuor, qui est probablement une des pages de la musique qui me touche le plus, mais enfin bon, c'est ce soir comme ça, vous savez, le programme que nous défilons, c'est celui de ce soir, demain on en fera un autre peut-être. C'est un moment musical unique. C'est celui aussi du malentendu avec ce petit jeune homme, Jacquino, qui est amoureux de Marceline, laquelle tombe amoureuse curieusement du travesti qui est Fidelio. Et puis il y a le brave, Rocco, qui est le bourgeois, et qui chante avec tout le monde, une sorte de bonheur factice, dans le fond. On ne sait pas dans quel sens ça va basculer tout ça, mais musicalement c'est sublime.
Alors c'est le roi du suspense, Beethoven, qu'on va écouter. Ici Sena Jorinac, Martha Mödel, Gottlob Frigg et Rudolf Schock, sous la direction de Wilhelm Furtwängler avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne. qu'une suite de variations sur un thème imposé, puisque ce quatuor extrait du premier de Fidelio est une répétition d'un même élément avec des ajouts. Ici chanté par Sena Jorinac, Martha Mödl, Gottlob Frick et Rudolf Schock, l'orchestre philharmonique de Vienne était dirigé par Wilhelm Furtwängler. Quelque chose d'absolument magique là-dedans, c'est que on a quatre personnages avec quatre états d'âme différents qui chantent en même temps et finalement on comprend tout.
Oui, c'est un moment magique. Il y en a beaucoup dans l'opéra, il y en a beaucoup dans Fidelio. Mais celui-là, ben, peut-être celui que je privilégie.
France Musique.
Nous allons écouter une musique quasiment contemporaine à ce que l'on vient d'entendre, à savoir Fidelio, puisqu'il s'agira d'un trio de Haydn. Il s'agit du troisième mouvement d'un rondo à la hongroise, à l'ungarese, et du trio numéro 39 par le trio mythique Cortot-Thibaut Casals. Alors, c'est votre côté hongrois, ça. C'est assez amusant, Hugues.
J'adore toutes les musiques tziganes, tout ce qui vient de l'Est, peut-être sans mes racines qui sont aussi là-bas. Mais surtout, cette interprétation qui est mythique, vous l'avez dit, de Casals, Thibaut et Cortot. Tellement intelligent, c'est tellement spirituel, c'est tellement l'esprit même de la conjonction de Haydn qui était là-bas, évidemment. Puis il a vécu toute sa vie ou pratiquement aux confins de l'Autriche et de la Hongrie. Et puis cette sonorité pâlie de ce disque repiqué qui me rappelle mes premières émotions, puisque chez une de mes grand-tantes, il y avait un tourne-disque avec des aiguilles et des 78 tours, et c'était toute la collection de ces enregistrements de ce trio extraordinaire qui ont bercé mon enfance, et on changeait l'aiguille, enfin c'était avant le 33 tours, je sais pas, vos auditeurs sont tous à entendre cela comme si on parlait tout en camon. Enfin c'était des moments tout à fait extraordinaires, et on changeait évidemment la platine, tout ça. Il y avait je sais pas combien de disques par trio ou par quatuor. C'est un grand souvenir et c'est resté pour moi. J'ai horreur de ce mot dont vous usez souvent ici dans cette maison d'enregistrement de référence, disons que c'est celui qui me revient aux mémoires et au cœur chaque fois que je pense à Haydn et à cet extraordinaire ensemble musical, Cortot, du plus grand pianiste de tous les temps, Thibaut n'en parlons pas, et Casals.
Alors cet enregistrement qui n'est pas un enregistrement de référence mais qui est la référence a été réalisé en 1926, on l'écoute tout de suite.
Thank you.
C'était l'élasticité subtile du trio Cortot-Thibaud-Casals dans cet extrait du trio en sol majeur de Joseph Haydn, où on a vraiment une espèce de perfection de la fusion. On ne sait plus si c'est le violon ou si c'est le piano qui joue, mais on a l'impression qu'ils s'articulent de la même façon, qu'ils se décalent en même temps, qu'ils retrouvent la battue en même temps. Il y a eu vraiment une fusion là-dedans. On voit que ce sont de vrais camarades, de vrais collègues qui jouent ensemble.
Oui, on trouve ça souvent, parfois dans des formations de musique de chambre, mais celle-là est parmi les plus étonnantes. On a entendu Alban Berg, des tas d'artistes extraordinaires qui ont, à leur façon, la même union et cette même liberté commune. Mais ici, il y a une culture, il y a quelque chose qui va plus loin, me semble-t-il, en tout cas qui me touche d'autant plus que j'ai l'impression que cette musique a été écrite pour eux 5 minutes avant. Enfin, ce sont des gens qui improvisent.
Et qui improvisent ensemble. Et c'est sûrement ce qui est le plus difficile. Alors, on va changer de registre avec, un petit extrait d'une opérette. C'est un répertoire qui vous touche, ça, Hugal?
Ah oui, quand c'est de la bonne musique et quand le... Oui, j'aime beaucoup l'opérette. Il y a des opérettes françaises divines tout au long du 19e siècle, même au 20e siècle. Et puis, il y a ces chefs-d'œuvre de l'opérette viennoise que sont les œuvres de Johann Strauss, la Chauve-souris, évidemment, numéro un. Mais puis, il y a de ces œuvres qui sont un peu plus oubliées maintenant, mais dont sont extraits parfois des bijoux, comme cet air tiré de Openbald, ce compositeur qui est contemporain, ou plus exactement début du XXe siècle, et que chante Schwarzkopf avec un esprit, une tendresse, un côté Schlagzahne, comme on dit à Vienne. En tout cas, tout ça est très doux, un peu très sucré, mais bien charmant.
Allez, c'est la Zarertorte du jour.
Chambre séparée.
l'irrésistible timbre et vocalité technique d'Elisabeth Schwarzkopf, ici accompagnée par l'orchestre du Philharmonia, dirigé par Otto Ackermann, dans cet extrait d'Der Opernball, opérette de Heuberger. Vous avez désiré écouter un peu de musique, je dirais plus instrumentale, de musique de chambre. On retourne à l'époque classique avec Beethoven et la sonate à Kreutzer, dans une version extraordinaire de Milstein avec Georges Friedermacher au piano. Je me suis beaucoup interrogé sur ce choix au milieu de tout ce déluge d'opéra et de musique très émouvante et très intimiste. Pourquoi cet extrait ?
Oh, pour de multiples raisons. D'abord, le violon est sans aucun doute mon instrument préféré. J'ai eu pour Milstein une admiration sans bornes, puis une amitié qui a duré. Et puis, il se trouve que Georges Pudermacher est un ami de longue date. Vous savez que Georges Pudermacher, qui est un de nos meilleurs pianistes, et probablement l'un des meilleurs beethoveniens français, a été longtemps premier pianiste de l'Orchestre de l'Opéra, dans les années lointaines maintenant. Et il a rencontré Nathan Milstein, c'est une de nos amies communes, Martina Turcam, il est devenu son accompagnateur, son partenaire. Et cet enregistrement de la sonate à Kreutzer était donné à Stockholm avec ses deux artistes amis et merveilleux. Et il se trouve que ça a été le dernier concert de Nathan Milstein, qui peu après est tombé, s'est brisé, je crois, une partie du bras et n'a jamais rejoué en concert. Donc cet enregistrement est émouvant, historique, touchant, et quand on pense, je ne sais pas quel âge avait Nathan à ce moment-là, mais enfin déjà un âge très avancé, la qualité de son interprétation était au plus haut niveau, et celle de Georges, que j'aime tendrement et j'admire beaucoup, avec lequel j'ai d'ailleurs donné à la salle Messiaen, à l'opéra de Bastille, il y a quelques années, une intégrale des sonates de Beethoven qui reste mémorable.
On écoute la fin de ce premier mouvement. Thank you. C'était l'archet trépidant de Nathan Milstein, accompagné ici par le clavier de Georges Pudermacher, dans la fin de ce premier mouvement de la sonate numéro 9, dite à Kreutzer, de Ludwig van Beethoven. Georges Pudermacher, donc, qui était pianiste à l'Opéra de Paris et qui avant était pianiste de l'équipe féminine de gymnastique pendant les Jeux Olympiques de 68, je crois, quelque chose comme ça. Donc, comme quoi, même la gymnastique peut mener à Beethoven.
Oui, mais c'est un bon chemin. Je rappelle simplement pour nos auditeurs que Kreutzer, le célèbre Kreutzer, était premier violoncello de l'orchestre de l'Opéra sous l'Empire, le premier Empire. Voilà. Pudermacher, pianiste de l'orchestre de l'Opéra, Kreutzer, premier violoncello. Enfin, tout ça fait une maison, une grande tradition à laquelle je suis heureux de rendre hommage.
Et Hugal, mon invité du jour, qui fut directeur de cette grande maison. Allez, on va écouter encore un petit peu de voix tout de même, Hugues. Je ne peux pas résister quand je vois que vous proposez Reynaldo Hahn en tant que chanteur qui va défendre le répertoire d'Offenbach. Vous avez dit aimer l'opérette. Eh bien là, nous en avons de l'opérette pour des écus, puisque c'est la boulangère qui a des écus. Quel choix amusant, mon cher ami.
Ah ben, c'est le choix de l'esprit d'Offenbach. Je n'ai jamais vu cette opérette, la boulangère a des écus. Je n'en connais que cet extrait. J'ai beaucoup d'admiration pour Reynaldo Hahn, le compositeur. C'était un interprète de salon. Il avait cette intelligence extraordinaire. Quand on va constater avec quel esprit il interprète ses paroles tellement drôles et qui sonnent spirituelles, oui, ça me ravit.
C'est une musique du dimanche soir.
Les charbonniers, les fariniers ont le même sac, le même grand chapeau. Les charbonniers, les fariniers se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais pour celui qui sait bien voir, il y a un détail très important. Il y a un détail, il y a un détail, il y a un détail très important. C'est que le charbonnier est tout noir et que le farinier est tout blanc. Tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Les fariniers sont bons enfants, tout blanc. Oui, le farinier est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Tout blanc, les fariniers sont bons enfants. J'ai connu une petite femme qui était la femme d'un charbonnier. Et la même petite femme avait un amant qui était farinier. Son mari venait pour l'embrasser, puis c'était le tour de son amant. Elle passait sa vie à se brosser pour n'avoir pas de désagrément. Car le charbonnier est tout noir, et le farinier est tout blanc. Tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, les fariniers sont bons enfants, tout blanc. Oui, le farinier est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, les fariniers sont bons enfants. Un homme d'un vrai mérite aimait une femme indigne de son hommage. Quand il apprit qu'elle le trompait, il l'en aima bien davantage. Que voulez-vous faire? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand on aime quand même. Il faut bien en passer par là. Que voulez-vous faire? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut bien en passer par là. La vertu, c'est un capital, on l'a dit et je le répète. Je connais des femmes, et pas mal, qui non seulement ont tout perdu, intérêt et capital, mais qui sont absolument criblées d'aides. Que voulez-vous faire? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand on aime quand même. Il faut bien en passer par là. Que voulez-vous faire? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut bien en passer par là.
On dédie évidemment cet extrait à tous les charbonniers, les fariniers qui nous écoutent, et aussi à ces chanteurs français de chansons pseudo-modernes à texte, qui ont l'impression d'avoir inventé le rapport du piano et de la voix avec des voix un petit peu déraillantes. On leur dit, ben voilà, vous voyez ce que vous essayez de faire, il y a bien longtemps qu'on le faisait, et beaucoup mieux que vous, puisque Reynaldo Hahn était aussi au piano dans cet extrait. C'est vraiment un artiste polyvalent et une diction absolument merveilleuse.
On imagine Proust écoutant cela, puisqu'ils étaient si liés, toute cette société mondaine, aristocratique, devant laquelle Reynaldo Hahn se produisait, en ami qu'il était. On imagine tout cela dans une époque qui est bien révolue aujourd'hui, mais qui rappelle tout de même L'extraordinaire invention mélodique d'Offenbach, le talent de Meillac et Halévy, tout cet esprit-là qui parfois revit quand même dans certaines œuvres d'aujourd'hui, j'espère du moins.
Hugal, il est temps de conclure cette émission, j'allais dire comment on l'a commencé, c'est-à-dire avec Weber, un de vos compositeurs fétiches. Cette fois-ci, avec Elisabeth Grümmer, qui est une des chanteuses qui vous tient le plus à cœur et qui aussi fait partie de mon panthéon, je dois le dire. Dans cet extrait du Freischütz, dirigé par Heinrich Kleiber, non pas le fils, puisque le fils Carlos Kleiber a aussi dirigé cette œuvre, avec l'Orchestre de la Radio de Cologne. Vous en dites quelques mots sur le plaisir que vous avez écouté cette chanteuse?
Ah, mais c'est un plaisir que tout le monde doit partager. C'est l'expression même du génie de Weber, mais du génie d'une Allemagne romantique qui s'exprime à travers cet air, mieux que partout ailleurs, me semble-t-il, avec une chanteuse d'une intelligence. D'ailleurs, c'est ce qui marque, les choix qui sont les miens. Il y a naturellement l'émotion, tout ce qu'on veut, la technique, mais l'intelligence de l'interprétation, celle de Reinaldo Hahn, celle d'Elisabeth Grümmer, celle naturellement de Schwarzkopf, tout ça est fondamental pour moi. Et cet air d'Agathe me touche tout particulièrement. Je suis heureux que nous concluions sur cette citation si importante. Erich Kleiber, évidemment un chef d'orchestre que je n'ai jamais eu le bonheur d'entendre, en revanche j'ai bien entendu son fils souvent, et qui a enregistré avec Guntula Janowitz un enregistrement célèbre du Freischütz. Bravo Janowitz, mais Grümmer, bon, voilà.
Je partage.
Thank you.
Merci Hugal d'avoir amené cet enregistrement du Freischütz avec Elisabeth Grümer, absolument stratosphérique, et l'orchestre de la radio de Cologne dirigé par Erich Kleiber dans une des œuvres que j'aime le plus au monde, donc c'est Freischütz de Weber. C'est un grand plaisir de partager ce moment avec vous.
C'était un grand bonheur de le partager, moi, avec vous et vos auditeurs.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Menus Plaisirs où j'ai été heureux de recevoir Hugues Gall. Merci à toute mon équipe, l'attaché de production était Annie Comier, l'ingénieur du son était Jean-Michel Bernot, et à la réalisation, on retrouvait Cyrielle Weber. Dans quelques minutes, après les communiqués, vous retrouverez le journal de 19h, puis Édouard Fouré-Colfuti et ses carnets de voyage. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, toujours à 18h sur France Musique, pour un nouveau numéro de mes menus plaisirs. Au revoir.